Il est l'heure de notre rendez-vous mensuel pour la dignité. C'est tout de suite, restez à l'écoute. On écoute une chanson écrite par Jacques Lair, Amnesty.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faible essaie d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre.
Voilà ce nouveau générique d'Amnesty. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, donc c'est notre première émission de l'année 2020. Et je vais commencer par faire un petit peu le bilan de ces 10 dernières années, de cette dernière décennie, en ce qui concerne bien sûr le domaine des droits humains et l'action d'Amnesty International. Donc entre d'une part les soulèvements dans le monde arabe, hein, qui ont commencé en 2011, et l'essor des mouvements de protestation mondiaux, et d'autre part la résurgence de la politique de la haine et les inquiétudes quant à l'utilisation abusive des mégadonnées et des technologies de surveillance, les années 2010 ont repoussé les frontières de la lutte pour nos droits. L'une des tendances les plus préoccupantes de la décennie est la progression des discours et des politiques qui diabolisent des groupes parmi les plus marginalisés de la société, notamment les personnes réfugiées, les minorités religieuses, les femmes, puis les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres et intersexes. C'est le fil rouge qui relie la persécution des Rohingyas au Myanmar, l'internement en masse des Ouïghours en Chine, et la proposition d'instaurer la peine de mort pour les personnes ayant des relations homosexuelles en Ouganda. Cela encourage aussi les attaques xénophobes contre les personnes migrantes en Afrique du Sud et sous-tend la politique des États-Unis qui sépare de force des familles en quête de sécurité. Cette décennie risque d'être la plus chaude aussi, jamais enregistrée. Un autre signe alarmant de l'urgence climatique qui constitue l'une des plus grandes menaces de notre temps pour les droits humains. Des millions de personnes souffrent déjà des effets catastrophiques du changement climatique, de la sécheresse prolongée en Afrique jusqu'aux tempêtes tropicales dévastatrices en Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes, en passant par les vagues de chaleur qui ont entraîné des records de température en Europe. Plus que jamais, nous devons faire front commun pour amener nos responsables politiques à rendre des comptes. Le mouvement Free Days for Future, créé en 2018 par l'adolescente suédoise Greta Thunberg et ses camarades, nous montre que le changement est possible, l'échec n'est pas permis. Le combat pour la protection des femmes, des filles et d'autres personnes contre toutes les formes de violence liées au genre est plus rude que jamais. Les violences sexuelles continuent d'être utilisées comme armes de guerre, notamment en République démocratique du Congo. Le 7 avril 2011, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté un instrument capital, la Convention d'Istanbul, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. L'un des mouvements en ligne les plus emblématiques de la décennie, MeToo, a rassemblé des millions de femmes pour dénoncer les violences, le harcèlement et les agressions sexuelles. Il a déclenché un changement partout, des studios hollywoodiens jusqu'à des villages isolés du Népal et du nord du Nigeria. Au début de la décennie, nous avions tous un faux sentiment de sécurité. Nous croyons juste partager des photos avec quelques amis. Puis il est devenu de plus en plus évident que les informations que nous partageons peuvent être exploitées à la fois comme un outil d'influence et un moyen de diffuser des informations erronées et dangereuses et de propager les violences sur Internet. Nous vivons actuellement dans un monde où le contrôle insidieux de notre vie numérique a des conséquences d'une portée considérable qui dépassent la question de la vie privée. La désinformation et la manipulation des informations sont un front où se livre un combat perpétuel ayant de profondes répercussions sur notre liberté d'opinion, d'expression et de pensée. Dans les sondages, de nombreuses personnes expriment leur inquiétude quant à l'influence que les géants du numérique ont sur leur vie et leurs préoccupations quant au fait que les données révèlent trop de renseignements sur eux et permettent aux autorités de les cibler. Voilà quelques thèmes que nous avons relevés parmi d'autres sur ces 10 dernières années et qui nous préoccupent et pour lesquels nous agissons. On va écouter une chanson d'IAM, Habitude.
Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont las, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays part en vrille. Je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois. Comme ceux qu'on retrouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire, ma présence ne choque même plus. Le temps défile et doucement je deviens une simple habitude.
On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées, sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent mes femmes pleines de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête.
On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes. Rien qui nous retient ici, ni maison, ni repères. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles. On brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chasse parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde faire semblant de ne pas me voir et ça me marque. Plus que le temps à tuer, sur le goudron une tache dans ce parc. Vos noms dits qui en disent long me rattrape. Et parmi nous beaucoup se résignent face au mépris, le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut.
On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées, sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent mes femmes pleines de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus.
Voilà, maintenant je vais vous parler de Cédric Chouviat, hein, ce livreur qui est mort à la suite d'une interpellation violente de la police lors d'un contrôle routier à Paris. C'était le 3 janvier, il était père de famille. Il a été interpellé à l'angle du quai Branly et de l'avenue Suffren à Paris. Des images vidéo montrent qu'il a alors subi un plaquage ventral. Après avoir été maintenu au sol pendant plusieurs minutes, il fait un malaise cardiaque et succombe 2 jours plus tard. Une autopsie du parquet de Paris indique que son décès serait lié à une asphyxie avec une fracture du larynx. Depuis des années, Amnesty International alerte pourtant sur l'utilisation du plaquage ventral. Cette technique est dangereuse car elle présente un risque d'asphyxie et peut-être dans certains cas, comme dans celui-là, ça peut être mortel. Une pratique pouvant gravement blesser, voire tuer quelqu'un, ne peut être utilisée que pour protéger la vie d'autres personnes. Il est donc tout à fait disproportionné de recourir au plaquage ventral dans le cadre de l'interpellation d'un homme non armé, dont rien n'indique qu'il présente un danger. L'usage de la force par la police n'est légal que s'il est strictement nécessaire et proportionné. Il doit n'intervenir qu'en dernier recours, de la manière la plus limitée possible, et en évaluant les risques liés à l'usage de la force par rapport aux avantages. Pour tous les cas d'allégation d'usage illégal de la force, il est essentiel que des enquêtes impartiales, indépendantes et exhaustives soient menées dans les meilleurs délais. L'expérience passée a malheureusement démontré qu'en France, le manque d'impartialité et d'indépendance des enquêtes et l'extrême longueur des procédures renforcent l'impunité, accroissent la douleur des familles et contribuent à la répétition de l'utilisation disproportionnée de la force. Nos recommandations sur la création d'un mécanisme d'enquête indépendant pour ce type de faits n'ont hélas pas été suivies d'effet. Le droit de recourir à la force doit pourtant impérativement s'accompagner de mécanismes de responsabilité et les familles des victimes doivent pouvoir accéder à la justice. L'impunité des forces de l'ordre n'encourage pas le respect du droit et la non-répétition des violations. La France a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions. Le décès de Cédric Chouviat est une tragédie. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches et soutenons le rappel à la justice. Alors, je vous ai préparé des chansons de Pierre Perret qu'on n'entend pas souvent, mais c'est aussi un chanteur militant. Et nous commençons par « La bête est revenue ».
Un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort « Nous mettrons l'étranger dehors !» Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. c'est une hydre au discours enjôleur, dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte, car vois-tu petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Très belle chanson de Pierre Perret. Et on va maintenant parler de Camille Allu, qui est une observatrice pour la Ligue des droits de l'homme et qui faisait partie en décembre des 10 jours pour signer, opération mondiale d'Amnesty International, où nous choisissons 10 cas de violation des droits humains et on essaye de faire signer un maximum de personnes partout dans le monde pour ces cas. Donc à Digne, on s'était installé à la médiathèque, on avait obtenu de nombreuses signatures. L'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes a obtenu aussi des milliers de signatures, rien que dans le lycée, pour les 10 cas, entre les élèves et les professeurs. On a fait signer aussi au lycée Alexandra Davinel. Voilà. Et donc, une bonne nouvelle, hein, c'est un des cas, c'était un cas français, puisqu'il s'agit de Camille Allu. Le tribunal correctionnel de Montpellier a prononcé la relaxe pure et simple de cette observatrice pour la Ligue des droits de l'homme. Donc on remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la soutenir. Dans un contexte national sensible où émergent de nombreux cas d'usage illégal et disproportionné de la force par les forces de l'ordre, on vient d'en parler, la mission des observateurs est essentielle. Elle contribue à garantir le respect des droits humains dans le maintien de l'ordre et l'exercice de la liberté d'expression. Pourtant, tout comme de nombreux observateurs de manifestations, Camille a fait l'objet de pressions, intimidations et violences de la part de la police. Depuis avril 2019, elle a déjà subi 3 arrestations, passé 56 heures en garde à vue et fait face à 2 procès. Après une relaxe lors d'un premier procès en octobre 2019, ce second verdict confirme que les charges de la police contre la jeune femme ne tiennent pas et entravent sa mission d'observation. Les observations de Camille ont contribué à la rédaction de plusieurs rapports. L'un d'eux a été produit devant le Conseil d'État dans le cadre du référé Liberté, tendant à interdire l'usage des LBD 40, une arme dont nous demandons la suspension en maintien de l'ordre. Ces observations ont aussi servi à des saisines de l'IGPN pour des cas d'allégations d'usage illégal de la force. Nous dénonçons le harcèlement dont les observateurs font régulièrement l'objet, tout en rappelant aux autorités françaises que le droit international exige la protection effective des observateurs et des défenseurs des droits fondamentaux. Cette situation est inacceptable et ces harcèlements doivent cesser. Voilà, une nouvelle chanson de Pierre Perret, très connue et très belle, Lily.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voilà, très belle chanson, un peu ancienne, mais qui est toujours d'actualité. Voilà, nous allons parler du 50e Forum économique mondial. Hein. Tout le monde a vu et a lu comment les dirigeants du monde se sont déplacés en limousine, en avion, etc. Ce qui n'allait pas du tout avec l'objectif de ce forum économique, hein, puisque c'était partie prenante pour un monde cohérent et durable. C'était le thème cette année. Alors Amnesty, nous soutenons les aspirations de centaines de millions de personnes engagées en faveur de la justice climatique, de la transformation économique, de l'égalité des droits humains, de l'environnement, de l'égalité entre hommes et femmes, des droits des travailleurs, des enfants, des réfugiés, des peuples autochtones et des communautés confessionnelles. Tout cela doit être mené ensemble, de pair. Nous sommes aux côtés des citoyens de par le monde qui imaginent un avenir meilleur et nous saluons le thème central de ce forum, donc, qui était partie prenante pour un monde cohérent et durable. Mais ce thème sonne creux s'il ne fait pas écho à la vision, au courage et à la lucidité dont font preuve ceux qui se trouvent en première ligne du mouvement pour le climat. Les jeunes notamment, les femmes, les scientifiques et les dirigeants associatifs qui partout dans le monde montrent la voie. Il est temps pour les décideurs qui participent à la réunion annuelle de déclarer l'urgence climatique dans leur pays. Il faut absolument limiter le dérèglement climatique, réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030 et parvenir à zéro émission à l'horizon 2050. Afin de permettre une transition juste pour les travailleurs et les populations, nous devons construire un futur prospère, régénérant et plus équitable, qui nécessitera une innovation exponentielle, un nouveau contrat social, axé autour d'une imposition équitable, des droits humains, du développement durable, des droits des femmes et de la redistribution des ressources. Les gouvernements devront adopter des lois exigeant des entreprises qu'elles respectent les droits fondamentaux et mettent en œuvre la diligence requise pour identifier, rendre public et réparer leurs impacts sociaux et environnementaux, mais aussi prévenir les violations qui gangrènent leur activité et leur chaîne d'approvisionnement et y remédier. Les entreprises devront respecter strictement les lois, mettre rapidement en œuvre des politiques et faire connaître des projets de transition clairs et justes. Par ce biais, nous avons la possibilité de créer des millions d'emplois et de construire un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère, qui offre à la majorité et non à quelques-uns de l'air propre, une biodiversité préservée, ainsi que des énergies et des transports abordables, renouvelables et fiables, tout en améliorant l'accès aux droits humains, notamment à la santé et à l'éducation, au sein de tous les groupes de la population. Il est temps que les entreprises et les pays influents qui se mettent en travers de cet avenir se réveillent. Le modèle actuel ne rend plus service à l'humanité ni à la planète et n'est pas viable sur le long terme. Nous en appelons à ces décideurs, si bien représentés au forum de Davos, et leur demandons d'accueillir favorablement ces demandes. Déclarer l'urgence climatique, mettre un terme à l'exploration et l'extraction des combustibles fossiles, cesser de subventionner les énergies fossiles et faire payer aux pollueurs le coût réel de leurs activités. Voilà ce que l'on espère avec beaucoup de citoyens du monde. Une nouvelle chanson de Pierre Perret, très belle aussi, Mon petit loup.
Ils sont là des noceurs précoces.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparou. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimanjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler? Et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fête, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
Voilà, maintenant nous allons parler d'un problème qui nous préoccupe en ce moment, puisque nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Silence en armes ». C'est une campagne qui est dirigée sur la France. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que la France a signé et ratifié le traité sur les commerces, le commerce des armes, qui dit en gros, si vous voulez, son but principal, c'est de dire aux États... On ne vend pas des armes à un pays où il y a un risque sérieux que ces armes soient utilisées pour faire des atteintes aux droits humains, des crimes contre l'humanité, etc.
Voilà. En général, c'est pour ça que c'est vendu, mais ou acheté. Ça,
oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas forcément à la vente d'armes, parce que les pays ont besoin de se défendre, de lutter contre le terrorisme. Mmh. Bon, on peut envisager certaines actions qui sont légitimes. Mais par contre, le traité sur le commerce des armes oblige les États qui sont partis, comme la France par exemple, à ne pas vendre d'armes à des pays qui pourraient les utiliser contre sa propre population ou pour commettre des crimes de guerre, par exemple, dans un conflit. Tout ce qui est crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est-à-dire, je vous donne des exemples, des bombardements d'hôpitaux, de quartiers où il y a énormément de civils, des bombardements même de bâtiments civils, hein, quand il n'y a pas un objectif militaire clair. Voilà, et c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu en Syrie, ce qu'on voit en ce moment au Yémen, hein, où l'ONU considère que c'est la pire catastrophe depuis longtemps. Ce qui s'est passé en Égypte, là, c'était plus de la répression de manifestations pacifiques, hein, et on a eu la preuve que des armes françaises avaient été utilisées dans la répression en Égypte. La preuve grâce notamment à l'étude de nombreuses petites vidéos qui ont été tournées par des gens qui étaient sur place Et dans ces vidéos, on voyait très bien notamment certains chars français. Donc, voilà. Alors, on a aussi des preuves comme quoi des armes françaises ont été utilisées par l'Arabie Saoudite dans sa guerre au Yémen. Hein. Et dans cette guerre au Yémen, on a constamment des bombardements d'hôpitaux, par exemple, d'écoles, de quartiers de civils. Voilà. Alors, on a fait une opération ce mois-ci, puisque c'est le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Donc, on a fait une opération en direction de nos députés et du président de la République. Voilà. Et on a préparé des cartes de vœux qu'on a envoyées. Et sur cette carte de vœux, il y avait un petit char gris, vous savez, qu'il fallait gratter, comme on fait dans certains jeux. Et quand on grattait ce char, on voyait cette phrase « Monsieur le Président, je formule le vœu qu'aucun civil dans le monde ne soit victime d'une arme française. » Voilà. C'était un exemple d'une des actions dans le cadre de cette campagne, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les ventes d'armes en France, c'est du secret défense. Alors que dans d'autres pays, même parmi les grands marchands d'armes, il y a un débat démocratique, les parlementaires sont au courant. En France, les parlementaires ne savent très peu de choses. Mmh. Hein. Et donc, c'est bien beau de signer un traité sur le commerce des armes, de s'engager à ne pas vendre des armes à des pays qui les utiliseraient contre sa population pour commettre des crimes de guerre. Mais si on n'a aucun moyen de contrôler ce qui est vendu, ça ne sert à rien. Donc il faut être logique. En 2020, il n'est plus possible de risquer que des armes françaises servent à commettre ou à faciliter des violations graves des droits humains. Le gouvernement français ne cesse d'être alerté sur les risques que représentent certains de ces transferts d'armement. Pourtant, il continue de vendre des équipements militaires à des pays qui pourraient les utiliser contre des civils, et ce dans la plus grande opacité. Il est donc urgent que la France améliore sa transparence et mettre en place un véritable contrôle sur les exportations d'armes, comme elle s'était engagée quand elle a signé le traité sur le commerce des armes. Voilà, donc le 31 décembre, Emmanuel Macron a formulé ses vœux à la nation, et c'est à votre tour maintenant de formuler le vœu suivant, qu'aucun civil dans le monde ne soit victime d'une arme française. Voilà l'action que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site amnesty.fr si vous voulez la faire. Vous avez un texte, une lettre que vous pouvez envoyer, par exemple, à votre député. Ensuite, je vais maintenant vous parler d'une communication qu'a fait le député mauritanien Biram Dahabé, prix des droits de l'homme de l'ONU, devant le comité des droits de l'homme de l'Union internationale des parlementaires la semaine dernière. C'était la session du 19 au 23 janvier, c'était à Genève, en Suisse. C'était un très beau discours de cet homme qui est considéré comme le nouveau Mandela africain. Alors, je vous lis une partie de son discours. Donc, il parle de son pays, la Mauritanie, où subsiste encore l'esclavage, un petit peu comme au Moyen Âge. Et on est aussi dans une situation d'apartheid, en fait, sur la population noire, comme il y avait en Afrique du Sud. Voilà son discours. « Grâce à la détermination des franges les plus humbles parmi mes compatriotes, envers et contre les groupes dominants, le racisme et la mentalité prégnante de l'esclavage, j'ai reçu les suffrages de l'espérance, qui sont l'arme de destruction massive aux mains des activistes de la non-violence. » Voilà, c'est-à-dire qu'il a été élu député alors qu'il se trouvait en prison pour son action non-violente de lutte contre l'esclavage. Mon parcours vous est familier parce qu'il ne comporte rien d'original en comparaison de milliers d'autres contestataires d'Afrique et du monde arabe, sans cesse privés de la parole, de cadre légal, bref, des droits élémentaires de l'individu. Mes compagnons et moi, dirigeons l'association Initiative de résurgence abolitionniste en Mauritanie et un parti, le Parti radical pour une action globale. Ces deux organisations, jusqu'à ce jour non reconnues, est toujours persécuté, regroupe une majorité de cadets sociaux, dont des esclaves et les descendants d'esclaves appelés les aratines, des autochtones subsahariens et des castres stigmatisés tels les artisans, les tributaires, les griots. Cependant, nous comptons dans nos rangs stupide cadre du bloc hégémonique arabo-berbère qui travaille à déconstruire la domination et à asseoir l'égalité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des arabo-berbères qui ont rejoint le mouvement parce qu'ils sont aussi épris de justice. En somme, nous représentons la majorité des exclus. Leur réveil entraînera l'éradication des privilèges de naissance et l'avènement d'une société du mérite où la supériorité raciale et le chantage à la religion auront disparu à jamais. De nos jours, la torture y relève de la banalité, de même que le mépris envers les Noirs. Mon pays en a déporté, spolié, humilié par milliers et massacré des centaines impunément. Une loi de 1993 protège les tortionnaires de la moindre poursuite. Une version ultra-conservatrice et liberticide de l'islam y sert de paravent, de bouclier et d'alibi à cette monumentale entreprise de prédation et d'exclusion. L'essentiel des richesses du pays revient à une ultra-minorité issue de l'ethnie arabo-berbère, celle de nos anciens maîtres. Je vous parle ici de la République islamique de Mauritanie, un État ébauche d'une modernité de façade, mais encore sous l'emprise d'un obscurantisme séculaire. Depuis 1978, date du premier putsch militaire, nous combattons, d'une génération à la suivante et souvent seuls, à main nue, des oligarchies de prétoriens qui se transmettent le pouvoir par les coups d'État, devenus de facto le sport national de nos élites. L'essentiel du commandement militaire, de la fonction publique, de l'économie et du magistère religieux demeure le terrain de jeu de la répartition tournante entre tribus. Pire, de jour en jour, l'extrémisme gagne du terrain et façonne la société grâce à la connivence de nos dirigeants, lesquels pourtant s'affichent alliés du monde libre. D'ailleurs, nombre des vieilles démocraties, notamment en Europe, se laissent ainsi tromper, souvent sur leur sol, préférant, lâcheté ou paresse, accorder foi à une seule face du double visage de Janus. Certaines de nos lois n'ont rien à envier à celles du projet djihadiste mondial, tel par exemple le nouvel article 306 du Code pénal, qui punit de mort immédiate et sans faculté de repentir le blasphème et l'apostasie, comme à l'époque sinistre du Saint-Office et de l'Inquisition. Nous sommes l'un des rares pays dont le droit prétend protéger Dieu. La Mauritanie est devenue, après la Somalie et devant le Nord Nigeria, l'espace le plus mûr à l'émergence d'un Daesh en Afrique. La progression du fanatisme résulte, en l'occurrence, d'une dynamique non armée. Celle-ci procède d'idées et de préceptes sans concurrence ni contestation possible, car le droit réprime l'esprit critique et protège l'enseignement de la haine. Au bout de 40 ans de financement du culte par les pétrodollars, la misogynie, l'effacement de la diversité culturelle, l'uniformisation du mode de vie sur le modèle puritain et la guerre aux langues étrangères constituent désormais les rouages de la fabrique de djihadistes qui tournent à plein régime. Nous n'avons encore rien vu. Honorable assistance, malgré l'ampleur des défis, le caractère répétitif des épreuves, des emprisonnements et sévices infligés à mes camarades et moi, en dépit des privations de soins et de salaires, je me suis porté candidat à l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Les résultats officiels, à l'image de la plupart des scrutins dans l'hémisphère sud, consacrèrent le paradoxe de l'adage inversé « qui gagne, perd ». Il me fut reconnu à contre-cœur et au terme de tripatouillage habituel le statut de deuxième en nombre de voix, soit 18,58% des suffrages exprimés. Par souci de la paix et de la cohésion sociale, j'ai accepté le verdict frauduleux et tourné la page. Par expérience, j'étais instruit de l'épilogue prévisible. Mesdames et messieurs, nobles représentants de la conscience de l'humanité qui refuse l'oubli et s'interdit l'insouciance, petits enfants de Treblinka et de Stalingrad, rescapés de la colonisation et du communisme, héritiers de l'apartheid, du génocide rwandais et de la dispersion des Palestiniens, aujourd'hui en butte à la barbarie du djihadisme et au dérèglement du climat, me voici debout devant vous. En homme libre, je lutte au nom de ce qui nous unit pour toujours, c'est-à-dire l'appartenance à l'espèce humaine, selon la formule tragique de Robert Antelme, rescapé des camps de la mort. Universaliste et partisan du devoir d'ingérence face à l'oppression, je conteste la souveraineté des États quand elle couvre le crime. arrêtons de conclure des trêves avec les dictatures et les marchands de paradis post-mortem. Réapprenons à vivre dans un monde d'affrontements perpétuels entre la volonté et la fatalité. Apprenons à nos enfants le maniement des idées de générosité, de partage, mais aussi de dureté envers la tyrannie. Sinon, nous finirons assujettis par d'autres, vous et nous, esclaves du plus fort. Nul n'est à l'abri de perdre sa dignité. Aussi, je nous invite aujourd'hui à réinventer ensemble un plan de survie collective qui conjugue riposte idéologique, sens de la subversion et prosélytisme de la démocratie. Cessons de ménager la bête immonde qui a fait des petits dans notre deux. Je vous remercie. C'était le discours de Biram Dahabé à Genève le 20 janvier 2020. J'ai tenu à vous le lire en entier, tellement ce texte est beau. Il concerne la Mauritanie, mais il fait écho aussi à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer en France, en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Voilà, ce très beau discours de Biram Dahabé. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Internet et rechercher Biram Dahabé et vous verrez un peu tous ces articles et cette lutte non violente qu'il mène depuis longtemps contre l'injustice. On va maintenant écouter à nouveau Pierre Perret, le monsieur qui vend des canons.
Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, il n'y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient des lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coque. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile de les femmes des ennemis dociles, d'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux, et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khuzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle et bien entendu même les pucelles qui dans vos bras se retrouveront nus, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU.
Pardon.
Voilà, on va un petit peu parler maintenant du groupe dinois d'Amnesty International. Donc, le jeudi 16 janvier dernier, Cine Étoile nous a demandé d'intervenir parce que dans le cadre du festival Télérama, il faisait passer ce documentaire extraordinaire qui s'appelle « Pour Sama ». Et c'est un documentaire sur la guerre en Syrie. C'est le meilleur documentaire du Festival de Cannes. Il s'agit de l'histoire de Wad al-Kateb. C'est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme, dès le début, au quotidien, les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d'Alep. Wad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
C'est un film, enfin j'ai pas pu le voir, mais assez difficile à voir, non ?
C'est un film très dur, parce qu'on voit comment cette révolte qui au départ de gens non violents, qui demandaient simplement au président un peu de démocratie, a été de suite réprimée par la violence, et notamment le gouvernement de Bachar a enfermé des jeunes, les a torturés, et ça a révolté la population qui s'est soulevée encore plus nombreux. Et là, il a envoyé l'armée et ils ont tiré à balles réelles. Voilà. Alors qu'au départ, c'était juste un mouvement qui demandait de la démocratie. Hein. Mmh. Et donc, on voit toute l'évolution de ce mouvement. À Alep, à un moment, on les voit faire la fête, des feux d'artifice, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont gagner. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Il y a une liberté, un bonheur dans cette ville. Mais malheureusement, ensuite, il va y avoir l'arrivée des djihadistes. Et puis ensuite, les Russes qui vont les bombarder. Et ça va être terrible. Et cette jeune femme avec son mari, c'est l'un des derniers à être évacués d'Alep. Hein. Alep est en ruine. Et quand c'est le moment d'évacuer, ils évacuent au début les blessés de l'hôpital. Et puis ensuite, ils sont les derniers à partir. Et ils ne savent même pas s'ils vont arriver à franchir les checkpoints pour se sauver, parce que lui, notamment, en tant que médecin, il est très connu. Et finalement, ils arrivent à passer et maintenant, ils sont en Europe. Leur deuxième fille est née. Mais voilà, ils ont cette tragédie parce qu'ils ont vu ces horreurs, ces bombardements dans les quartiers de civils, ces blessés qu'on amène avec ces enfants qui perdent leur frère, leur sœur. Enfin, c'est vraiment terrible. Et puis on voit en même temps cette solidarité qui est impressionnante. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait présenté le film. Après, c'est difficile de parler. Mmh. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup. Mmh. Ouais, on était tellement sous le choc. On leur a juste donné les deux informations parce que curieusement, on ne parle plus du tout de la série, comme il ne se passait plus rien. Hein. Or, en fait, il y a deux événements qui se sont passés, qui sont un peu dramatiques, que je les retrouve. Voilà, juste avant, hein, donc le 10 janvier, il y a eu à l'ONU le non-renouvellement de la résolution sur l'aide transfrontalière. Et ce non-renouvellement annonce la catastrophe humanitaire qui a suivi. C'est-à-dire que dans la zone d'Idlib, c'était une zone transfrontalière à la Turquie, où finalement il y avait une résolution de l'ONU qui permettait aux secours d'approvisionner des médicaments, de la nourriture par la Turquie. Et on avait conseillé aux gens, aux réfugiés, d'aller dans cette ville. Voilà. Mais Bachar, avec ses amis russes, lui, son désir, c'est de reconquérir l'ensemble de la Syrie. Et donc, il y a eu une opposition de la Russie et de la Chine, toujours pareil, qui ont utilisé leur droit de veto. Hein. Et donc, cette résolution qui expirait le 10 janvier 2020 n'a pas été renouvelée. Et donc, elle prive des millions de civils dans le nord de la Syrie, cette région d'Idlib, d'une aide vitale. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, il y a un médecin qui est venu témoigner auprès d'Emmanuel Macron, hein, pour dire que la situation était catastrophique. Les bombardements sur la ville d'Idlib continuent, alors qu'elle est remplie de civils. Hein. On continue de bombarder des hôpitaux. Voilà. Alors, bien sûr, Bachar al-Assad semble gagner. Mais nous pensons que ce film, ainsi que tous les documents qui ont été tournés, ainsi que les rapports de notre chercheuse d'Amnesty qui est allée en Syrie plusieurs fois, ainsi que toutes les photos qui ont été prises par un membre de l'armée syrienne qui était chargé de photographier les prisonniers qui avaient été torturés. Et toutes ces photos, et ce journaliste a pu se sauver et emporter toutes ces photos. On pense que tout ça, ça va être des preuves et qu'on espère qu'un jour, le plus vite possible, mais on espère qu'un jour, Bachar el-Assad sera traduit devant la Cour pénale internationale pour les crimes qu'il a commis contre son peuple. Voilà, c'est l'espoir que nous avons et pour lequel nous nous sommes battus pour la création de la Cour pénale internationale et nous espérons qu'un jour, il devra rendre des comptes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Le groupe d'Amnesty donc se réunit demain, si jamais il y a des gens qui voulaient voir comment ça se passe. C'est à 18h dans une salle des associations à côté de la mairie de Digne.
Ce mardi 28 janvier.
À 18h. Mmh. Vous pouvez venir sans problème pour voir comment ça se passe. Nous allons organiser au mois de mars, donc on a commencé à y travailler, un festival de cinéma qui s'appelle Au cinéma pour les droits humains.
C'est un autre festival que celui qui existe déjà.
Non, c'est celui qu'on fait chaque année au mois de mars.
Le festival du cinéma pour les droits humains.
Voilà, il y a une sélection de films et ensuite les groupes choisissent tel ou tel film en fonction de leur désir. Et nous prévoyons, alors vous pouvez déjà noter la date, le vendredi 6 mars à partir de 18h, nous allons passer deux films. Un, c'est l'histoire d'une réfugiée tibétaine qui va en Inde, qui traverse l'Himalaya avec ses parents quand elle est très jeune. Et puis on la voit, jeune femme en Inde, et elle fait la rencontre d'un homme qui faisait partie du voyage. Et à partir de cette rencontre, ça lui fait se souvenir de ce qu'elle avait un peu oublié ou enfoui dans sa mémoire. L'a fait souvenir de ce voyage, comment il s'était passé. Voilà, donc c'est un film. Alors je sais que nous savons qu'à Digne, il y a une sensibilité sur le Tibet, hein, puisqu'il y a la maison d'Alexandre Davinel. D'ailleurs, nous avons associé dans notre soirée l'association Alexandre Davinel, qui participera aux animations. Donc il y aura ce premier film à 18h, suivi d'un débat avec un sinologue réputé, qui s'appelle Jean-Philippe Béja, qui interviendra sur les deux films. Donc en premier, il y aura ce film sur cette réfugiée tibétaine, un petit débat, ensuite l'entracte dans le hall du cinéma, on offrira de quoi se ravitailler, l'association Alexandra Davinel, je pense, offrira du thé aussi, et puis les gens qui veulent rester pourront assister au deuxième film, qui est un documentaire sur Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix.
Ça s'écrit comment?
Liu, L-I-U, Xiaobo, X-I-A-B-O, X-I-A-O-B-O, Xiaobo, qui est un intellectuel qui est revenu en Chine à l'époque de Tiananmen et qui a soutenu le mouvement des étudiants sur la place. Il a eu le prix Nobel de la paix, c'est aussi un poète, hein, un littéraire. Et il a évité, en fait, il y a eu... on a tous l'image de cet homme qui arrête les chars, qui arrête un char. Hein. Ça a fait le tour du monde. Vous vous souvenez, Odile, cette photo là, de cet homme seul devant un char?
Oui.
C'était un petit peu après l'évacuation de Tiananmen. Mm-hmm. Mais c'est exceptionnel parce que quelques jours avant, les chars ne se sont pas arrêtés. Ils ont écrasé les étudiants qui manifestaient. Voilà. Et la Chine veut absolument qu'on ne parle plus de cette histoire, veut effacer la mémoire collective, cet épisode tragique de son histoire. Mais ce qu'ils n'oublient pas, c'est les familles, hein, les familles qui ont perdu leur fils, leur frère, leur mari. Et on se doit de se souvenir comment cette envie de démocratie a été... c'est fini dans un bain de sang, comme on a vu aussi dans les révolutions, ce qu'on appelait les révolutions arabes dans les années 2011, 2012, 2013. Voilà. Donc, l'intervenant Jean-Philippe Béja interviendra pour le deuxième film. C'était un ami de Luc Xiaobo. Je vous rappelle que Luc Xiaobo a eu le prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas pu aller le chercher parce qu'il était en prison. Ils ne l'ont pas soigné en prison, il est mort, ils l'ont libéré juste pour aller mourir à l'hôpital, atteint d'un cancer en phase terminale. Voilà. Mais on ne l'oublie pas. On n'oublie pas son œuvre, et puis c'est aussi grâce à lui que de nombreux jeunes ont eu la vie sauve, parce qu'il a organisé l'évacuation de la place en disant il va y avoir un bain de sang. Et voilà. Donc une très grande soirée sur la Chine, j'espère que vous viendrez nombreux le vendredi 6 mars à partir de 18h. Voilà. Et puis on fera une deuxième soirée de courts-métrages. Et donc c'est des courts-métrages qu'on va utiliser en éducation aux droits humains. Et on fera une soirée pour les Dinois qui sera gratuite. Voilà. Vous pourrez voir des courts-métrages, bien sûr, sur les thèmes des droits humains gratuitement. Ça sera le jeudi 26 mars à 18h aussi. Et puis je vous rappelle que nous sommes associés à tout ce qui est lutte pour le climat, changement climatique. Et donc je vous rappelle que tous les premiers vendredis du mois a lieu le rassemblement des coquelicots. Donc ce sera le vendredi 7 février à 18h30 à côté du kiosque à musique. Donc voilà, venez nombreux. Et puis bon, ben, on va maintenant terminer cette émission. On vous remercie de votre écoute et on finit avec la chanson Amnesty, Amnesty.
Merci Régis, à bientôt.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faible essaie d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre. Je n'ai joli livré aux fauves qui m'offrent une cage dorée où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer 6 pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre. Sous les ailes de la colombe. Mon seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'efface pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie tes coups de plume sur le monde. Ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie. allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.